Bonjour. Comme 2 Corinthiens 4, verset 4 mentionne, actuellement, c'est Satan qui est le Dieu de ce monde. C'est un menteur, un séducteur. Le monde est sous son influence actuellement, ce qui signifie que la vaste majorité de l'humanité ne comprend pas vraiment le plan de salut de Dieu. Nous, qui avons été appelés dans l'Église de Dieu, nous devons avoir le Christ qui vit en nous, comme c'est marqué dans Galates 2 et le verset 20. En commençant le sermon aujourd'hui, tournons à Jean 6. Jean 6, et nous allons lire le verset 51, qui établit un peu le même principe de Galates 2, verset 20, c'est-à-dire qu'en tant que chrétien, le Christ doit vivre en nous. Jésus-Christ déclare, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Nous savons bien sûr que le Christ est venu dans la chair humaine et qu'il a donné sa vie pour le monde. Il a été le sacrifice parfait de la Pâque. En commençant le sermon aujourd'hui, pour comprendre la signification de cette fête des expiations, je veux mentionner que actuellement Satan est le dieu de ce monde. Il le séduit. Mais les vrais chrétiens doivent avoir le Christ vivant en eux. Nous devons nous nourrir du Christ, le pain de vie. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu est exprimée dans les pages de la Bible, de laquelle nous devons vivre. Nous devons nous nourrir de cette Bible chaque jour, de la parole en écrit. Et alors que nous vivons les fêtes annuelles, nous devons chaque année comprendre un peu plus profondément le sens du plan de salut que Dieu accomplit actuellement. Nous sommes, en tant que membres de l'Église, appelés et nous sommes jugés en ce moment. J'ai mentionné au tout début de mon sermon que 2 Corinthiens 4, verset 4, nous rappelle que Satan est encore le Dieu de ce monde. Et c'est une introduction appropriée pour le sermon d'aujourd'hui. Parce que Satan sera éliminé. Il va perdre la direction de ce monde lorsque le jour des expiations va se réaliser. Nous sommes actuellement dans l'Église de Dieu jugés, ceux qui sont appelés maintenant. Nous sommes sous l'examen de Dieu. Mais pour le moment, le monde n'est pas sous le jugement en ce qui concerne la vie éternelle. C'est notre cas, par contre. Nous sommes évalués en ce moment. Et c'est bon que nous le réalisions en ce jour des expiations. Parce que le jour des expiations concerne le jugement. Donc, le monde n'est pas encore sous le jugement et nous allons l'examiner un petit peu plus loin au cours du sermon. Le jour des expiations parle aussi d'amour. Dieu nous a appelés et nous a donné la compréhension et il nous a donné ces jours saints qui décrivent le plan de salut pour toute l'humanité et il nous juge maintenant ceux qui sont appelés à son Église, mais il ne juge pas encore ceux qui sont en dehors de l'Église en ce qui a trait à la vie éternelle. Bien sûr, si les gens vivent contrairement aux lois de Dieu, même sans le savoir, ils ont des conséquences. Mais nous, dans l'Église de Dieu, nous sommes jugés avec les lois que nous connaissons, qui nous ont été enseignées. Le premier point majeur que j'aimerais établir aujourd'hui dans le sermon concernant la fête des expiations, c'est le fait qu'il y a trois époques majeures de jugement. Trois époques majeures de jugement. C'est ce que la Bible mentionne. Pourquoi est-ce que je commence le sermon en parlant de ça aujourd'hui? Parce que le jour des expiations concerne aussi le jugement. Bien sûr, ça décrit le fait que Satan sera enlevé, éliminé, mais ça parle aussi du jugement et ça parle aussi de l'amour de Dieu. Et nous allons voir ces thèmes se développer au cours du sermon. 1 Pierre chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 4. Nous allons lire le verset 17. C'est important pour nous de nous rappeler ceci. Alors que nous étudions, que nous prions, pour comprendre plus profondément le sens de cette fête aujourd'hui. 1 Pierre 4 et le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Le jugement a déjà commencé sur nous qui sommes de la maison de Dieu, dans l'Église de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sous l'examen de Dieu, nous sommes évalués par lui. Comment nous comportons-nous? Comment nous comportons-nous par rapport aux autres? De quelle façon observons-nous le sabbat? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous étudions chaque jour les Écritures? Est-ce que nous donnons? Est-ce que nous observons les jours saints de la bonne façon, de tout notre cœur, avec reconnaissance? Nous sommes évalués, jugés sur tout ça aujourd'hui. Mais le reste du monde n'est pas jugé aujourd'hui. Ils n'ont pas été encore appelés. Allons à Ésaïe, le chapitre 11. Nous allons voir qu'il y aura une autre époque de jugement, une époque de jugement qui s'en vient au-delà de l'époque de jugement actuelle. Ésaïe 11 et le verset 9. Aujourd'hui, l'Église est jugée sous le jugement. Nous croissons dans la grâce et dans la connaissance, dans la justice de Dieu. Mais après le retour de Christ, nous savons que le millénium sera établi avec le gouvernement de Dieu régnant sur la terre. Et voici ce qui va se passer. Ésaïe 11 et le verset 9. « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Voyez-vous, aujourd'hui, ceci s'applique à nous, parce que nous avons la connaissance de Dieu, nous qui sommes dans son Église. Mais le reste du monde est séduit, est encore séduit par Satan. Et le jour des expiations nous indique que Satan sera éliminé à un moment donné. À ce moment-là, après le retour de Christ, les gens ne seront plus séduits. Et ici, au verset 9, ça nous donne un petit aperçu du merveilleux monde à venir. Alors que Satan aura été éliminé pour 1000 ans, il sera bien sûr, comme la Bible l'indique, relâché pour un peu de temps à la fin du millénaire. Mais après, les gens auront accès à la vérité de Dieu. Allons à Apocalypse 20. Apocalypse 20 et le verset 2. Apocalypse 20 et le verset 2. Nous avons ici des indications additionnelles concernant le millénium, c'est-à-dire la deuxième époque de jugement. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Nous allons aller voir tantôt dans le livre de Lévitique et nous allons voir l'ancienne cérémonie que Dieu avait commandée d'être faite en ce jour des expiations. Et ça représentait justement ce qui va être réalisé très bientôt par l'élimination de Satan. Alors voici un ange puissant qu'il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 3, il le jeta dans l'abîme. Nous parlerons un peu plus loin de cet abîme. Ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Voyez-vous, Satan ne pourra plus séduire les nations après le retour de Christ, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors ici, nous voyons la deuxième étape de jugement ou la deuxième époque de jugement, et ce sera un temps merveilleux où Satan aura été éliminé, il ne pourra plus séduire, et durant ce 1000 ans, il y aura plusieurs générations d'êtres humains qui vont se succéder. Durant la grande détresse, l'humanité ne sera pas entièrement détruite, un certain nombre survivront, Et ces gens vont vivre, ils auront des enfants, et ils se verront enseigner les voies de Dieu, comme nous sommes enseignés, nous, aujourd'hui, en ce qui a trait aux voies divines. Alors, on parle ici donc du millénium, la deuxième époque de jugement. Voyons maintenant la troisième époque de jugement. Il y a quelques passages bibliques qui en parlent, mais puisque nous sommes dans Apocalypse 20, allons voir verset 11, il en est question de cette troisième étape de jugement, troisième époque de jugement. Ici, on est rendu après le mille ans. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit que les morts seront ressuscités, seront ramenés à la vie et se tiendront devant Dieu. Des livres seront ouverts, les livres de la Bible, et un autre livre sera ouvert, c'est-à-dire le livre de vie. Alors les gens se verront enseigner les voies divines et les lois de Dieu, et les gens seront jugés sur leur façon de vivre selon ce qu'ils apprendront à partir des livres de la Bible. Cette période durera 100 ans, comme on voit dans la Bible. On appelle ça le jugement du grand trône blanc. Allons à Ézéchiel, maintenant chapitre 37. Ézéchiel, chapitre 37. C'est important que nous comprenions que nous sommes sous le jugement maintenant. Nous sommes les prémices de Dieu et nous naîtrons possiblement dans sa famille si nous sommes fidèles. Dieu révèle la vérité à son Église. Le reste du monde ne sera pas perdu à jamais, pas du tout. Dieu a un plan et Dieu est juste. Et encore une fois, les jours saints révèlent le plan de Dieu. Alors, tous ceux qui ont vécu dans l'histoire auront un jour leur chance, comme nous avons aujourd'hui. Ils auront leur chance de comprendre les lois de Dieu, les voies de Dieu, son plan, et de le connaître. Après le millénaire, il y aura le jugement du grand trône blanc, donc, Ézéchiel 37 et le verset 1. C'est la vallée des ossements desséchés. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Nous ne lirons pas tous les versets ici, mais nous savons qu'Ézéchiel a vu tous ses os desséchés, et c'est dit au verset 2 qu'ils étaient très secs. Et au verset 3, Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces os vont revivre? Et il dit à Dieu, toi tu le sais. Verset 4, Dieu dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, ainsi parle l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et ça décrit ensuite comment de la chair reviendra sur ses ossements, des nerfs et ainsi de suite. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Alors, c'est clair qu'il s'agit donc de gens qui étaient morts, une grande multitude de gens. On voit au verset 11, il me dit, « Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël. » Toute la maison d'Israël. Tous ceux qui ont existé et qui sont morts, qui n'ont pas été appelés par Dieu et qui ne sont pas parmi les prémices de Dieu. Ils reviendront à la vie. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ils seront ramenés à la vie physique mortelle. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Donc, nous avons ici un petit aperçu de cette troisième époque de jugement, alors que Dieu ramènera à la vie tous ceux qui ont vécu dans toute l'histoire humaine. Aujourd'hui, comme j'ai déjà mentionné, nous, dans l'Église, nous sommes déjà jugés. Et vous qui entendez ce sermon aujourd'hui, si c'est le jour des expiations, vous êtes en train de jeûner. Et c'est le temps de faire de plus de prières, plus d'études bibliques. C'est le temps de nous examiner. On ne s'examine pas seulement avant la fête des pains sans levain et avant la Pâque, mais aujourd'hui, l'occasion de nous examiner encore plus. Nous jeûnons, nous étudions les Écritures, nous affligeons notre âme, nous réfléchissons, nous demandons à Dieu d'écrire ses lois dans nos cœurs. Nous savons que dans 1 Jean 5, verset 3, il est écrit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et nous manifestons notre amour envers Dieu en nous appliquant à vivre selon ses commandements. Le jour des expiations, c'est une loi, c'est un statut de Dieu que nous devons observer. Les jours saints que nous observons manifestent envers Dieu notre intention de continuer à lui obéir et de croire dans la grâce et dans la connaissance. Pourquoi est-ce que je mentionne régulièrement que les jours saints nous montrent le plan de Dieu de salut pour l'humanité? Pourquoi est-ce que je mentionne que Dieu nous aime et que le jour des expiations, ce n'est pas simplement le fait que Satan sera éliminé, que c'est un jour de jugement, mais que ça révèle l'amour de Dieu pour nous? Parce que Dieu aime le monde. Écoutez, il a envoyé son Fils pour mourir pour le monde. Dieu, en plus, est un Dieu juste. Dieu n'est pas un Dieu cruel. Dieu ne condamnera pas des gens qui n'ont jamais été appelés, qui ne l'ont jamais connu, à souffrir éternellement. Dieu va donner à chacun sa chance. Dieu est un Dieu d'amour. En fait, Dr. Meredith a mentionné cela très clairement dans un sermon que vous trouvez sur le site anglais lcg.org, le sermon numéro 527, et le titre est « Jésus, notre sauveur, notre souverain sacrificateur et notre ami ». Dr. Meredith a dit « Dieu nous aime ». Et Dieu ne nous abandonne jamais. Si nous abandonnons, ça c'est notre problème. Mais Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais si nous nous efforçons d'être fidèles. Les jours saints annuels, c'est un rappel que Dieu a un plan de salut pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, et qu'il est en train de réaliser ce plan sur la terre actuellement, et nous faisons partie de la réalisation de ce plan. Vous et moi, dans l'Église de Dieu, nous nous efforçons d'obéir à ses lois, même si nous ne sommes pas parfaits, mais nous le faisons de tout cœur. Et nous nous préparons à ce royaume qui sera établi sur la terre. Nous avons hâte que ça soit établi. Donc, nous faisons partie du plan de salut de Dieu, et les jours saints de Dieu révèlent son plan. Nous allons voir rapidement l'ensemble des fêtes que Dieu a décrété, et après je préciserai certaines choses. Le jour des expiations, bien sûr, c'est le cinquième des sept jours saints de Dieu. C'est dans la deuxième partie des fêtes de Dieu. Nous savons que Colossiens 2, verset 17 nous rappelle que les jours saints sont l'ombre des choses à venir. Ça annonce les choses à venir. Alors, revoyons les jours saints et voyons comment le jour des expiations s'insère dans cette séquence. La saison des fêtes commence par la Pâque, qui représente le sacrifice de Jésus-Christ en tant qu'agneau de Dieu. Jean 1, on voit dans Jean 1, le verset 29, un passage qui indique ce sacrifice de la Pâque, de la part du Christ. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien sûr, On ne peut pas entrer dans tous les détails concernant la Pâque, mais on voit que Jésus-Christ a été le sacrifice parfait de la Pâque. Il a vécu une vie de perfection et il a donné sa vie. Il est devenu le sacrifice propitiatoire pour payer l'amende de nos péchés. Allons à Apocalypse chapitre 5, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 5, concernant le sens de la Pâque. Apocalypse 5, on voit ici au verset 2, on se demande qui va ouvrir le livre scellé de ses sceaux. Verset 6, « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, c'est le Christ. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Nous voyons ici que le Christ est encore représenté comme un agneau. Il est l'agneau sacrificiel qui a donné sa vie. Alors, la Pâque, c'est le début du plan de salut de Dieu. Sans ce sacrifice de Jésus-Christ, Dieu venu dans la chair, mourir et vivre une vie parfaite, ayant vaincu Satan, la nature humaine et le monde de Satan, le reste du plan ne tiendrait pas. Ce plan repose sur ce grand départ qui est la Pâque, l'offrande de l'agneau pascal. Allons maintenant à la fête des pains sans levain. La deuxième fête représente le fait que nous devons éliminer le péché de nos vies. Tous les péchés que nous avons, nous devons les éliminer graduellement et nous devons les remplacer par la vérité et la justice, comme c'est marqué dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 9. Il nous faut remplacer ces péchés-là par la sincérité, par la vérité, par la pureté. Alors, en tant que chrétiens, nous avançons dans ce processus. Le Christ est notre Sauveur. Nous avons demandé d'être pardonnés de nos péchés. Nous avons été baptisés. Les mains nous ont été imposées. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Et maintenant, nous nous efforçons de grandir dans la justice. Et nous continuons de mettre à mort notre vieil homme pour éliminer le mal complètement de nos vies. Et après arrive la troisième fête, la fête des prémices, la Pentecôte. La fête de la Pentecôte représente la petite moisson. Au printemps, ceux qui sont appelés maintenant, ceux qui sont engendrés, ceux qui sont appelés maintenant et qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu ne sont pas nés de nouveau, ils sont simplement engendrés. Et s'ils sont fidèles, ils seront les premiers-nés, ils seront les enfants nés dans la famille de Dieu. Jacques émet un commentaire important à ce sujet-là, Jacques chapitre 1 et le verset 18. Il parle de nous, les appelés maintenant, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, comme étant les prémices de Dieu, les premiers fruits. Ceux qui sont baptisés dans le corps du Christ sont les prémices de ces créatures spirituelles. Verset 18, « Et nous engendrer selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Bien sûr, ces créatures spirituelles. Et voilà ce que représente la Pentecôte. Puis arrive ensuite la fête des trompettes. Une prophétie qui décrit le retour en gloire du Christ au son de la trompette. Matthieu chapitre 24, maintenant les versets 31. Matthieu 24 et le verset 31. Ça parle du retour glorieux du Christ. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Les élus, les choisis, les saints, les fidèles seront rassemblés à ce moment-là. Et cet événement majeur va se passer au retour du Christ. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4 maintenant. Nous allons commencer à lire au verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ou qui se sont endormis du sommeil de la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors, Paul parle clairement de ceux qui sont morts ici. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés ou qui dorment du sommeil de la mort. Il parle de ceux qui ont été fidèles durant leur vie. À ce moment-là, Dieu va les ressusciter au retour de Christ. Verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Paul s'appuie ici sur la parole du Seigneur. « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire pour son retour, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Il n'est pas question ici de la naissance du Christ. Non, ça parle de sa seconde venue. Ça ne parle pas de sa première venue lorsqu'il est venu en tant qu'un petit bébé dans la chair humaine. À ce moment-là, lorsqu'il reviendra, les fidèles serviteurs de Dieu qui sont morts vont être ressuscités. Verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui lui ont appartenu, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Quand cet événement va se produire, les morts en Jésus-Christ vont être ressuscités et une fraction de seconde après ou quelques secondes après, ceux d'entre nous, fidèles, qui seront encore là, seront transformés. Nous deviendrons des êtres immortels, des enfants de Dieu. À ce moment-là, ce sera la nouvelle naissance, naître dans la famille de Dieu. Il n'y aura plus de mort pour ces gens-là, pour ceux qui vont avoir à ce moment-là hérité la vie éternelle. Puis, on arrive à la fête des expiations. Allons à Lévitique, le chapitre 16. Lévitique, chapitre 16. Nous allons voir à partir du verset 8. Je vais préciser certaines choses sur le jour des expiations. Le jour des expiations, bien sûr, représente différents événements. Satan empêché de nuire pendant 1000 ans. Vous savez, au début, lorsqu'il a été créé, Satan était un chérubin superbe, très brillant, glorieux. Il occupait un poste élevé dans le gouvernement de Dieu, mais comme nous savons, il s'est rebellé par vanité, par orgueil. Il a empoisonné littéralement l'humanité depuis ce temps-là, depuis tout le début, depuis Adam et Ève. C'est un séducteur, c'est un menteur. Il a aveuglé l'ensemble de l'humanité. C'est ce que la Bible nous dit. Un tout petit nombre de personnes sait la vérité concernant le plan de salut de Dieu et le rôle horrible de Satan. Alors, nous revisons aujourd'hui quelque chose d'important. Même si nous le connaissons, écoutez, c'est tellement précieux cette vérité-là. Il faut la revoir et l'apprécier. Le reste du monde ne la comprend pas. Les gens croient qu'à leur mort, ils vont au ciel ou ils vont en enfer. D'autres ne croient pas qu'il y ait un Dieu et ils ne comprennent pas ce que vous et moi, nous comprenons. Ça nous est donné. Lévitique 16 et le verset 8. Nous voyons qu'Aaron devait jeter le sort sur les deux boucs. Nous allons revenir à Lévitique 16 un petit peu plus tard, plus lentement, mais je veux juste introduire ici le jour des expiations. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Le bouc représentant Satan. Alors, on voit la sélection des deux boucs ici, verset 10. « Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. » Nous en parlerons plus en détail un peu plus tard, mais nous savons que lorsque cet ange puissant liera Satan et le jettera dans l'abîme. Ce sera la réalisation de ce qui est représenté ici par ce que Aaron devait faire. Verset 15 maintenant. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Voici l'autre bouc. Et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Il y a deux boucs. Un qui représente Satan. Les fautes du monde seront mises sur sa tête parce qu'il a été l'initiateur de ces fautes-là. Mais l'autre bouc, c'est le Christ. Ça représente le Christ qui a payé l'amende pour nos péchés. Lui qui a été mis à mort. Donc, ça parle un peu de la Pâque ici. Le Christ est l'agneau pascal. Ici, il est représenté par un bouc qui paie le prix pour nos péchés. Allons à Apocalypse 20 maintenant. Apocalypse 20, et nous allons lire le verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Cet ange a la clé de l'abîme. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, il ne pourra plus séduire les nations. Il sera éliminé, enfermé dans l'abîme. Il le jeta dans l'abîme, scella et ferma l'entrée au-dessus de lui. C'est ce qu'on voit dans Lévitique 16. Aaron devait offrir le sang d'un taureau pour lui-même et sa famille, pour leurs péchés. Et nous voyons aussi que Aaron devait offrir un bélier aussi. On le voit dans Lévitique 16, verset 3. Et après, il y a les deux boucs. Un représentant le Christ et l'autre représentant Satan. Dieu a donné à Aaron des directives très précises, à savoir comment faire ses sacrifices. C'est très précis. Je veux que vous vous en rappeliez. Nous allons revenir à Lévitique 16 tout à l'heure. Et nous allons noter quelque chose qui est important pour nous de réaliser. Dieu a donné à Aaron des instructions très spécifiques. Et à nous, Dieu donne aussi des directives très spécifiques. Bien sûr, nous ne sacrifions plus d'animaux maintenant. Parce que le sacrifice parfait, le Christ, l'agneau de Dieu, est venu, donc on n'a plus à offrir des sacrifices physiques. D'ailleurs, nous ne voyons pas un tel exemple donné par les apôtres dans le Nouveau Testament, mais je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y avait des instructions très spécifiques, très précises que Dieu a données à Aaron, et Aaron devait mettre en pratique exactement ces directives-là. C'est très, très important, et c'est très important pour nous de comprendre ces choses-là et de mettre en pratique les choses qu'on doit mettre en pratique. Après, la fête des expiations, c'est la fête des tabernacles. Bien sûr, ça représente le millénaire, le 1000 ans du règne du Christ sur la terre. Dans Luc 12, Luc chapitre 12, verset 32, nous pourrions donner plusieurs passages des Écritures, mais je vais vous donner simplement celui-ci pour illustrer le millénium qui vient, le règne du Christ qui va commencer à partir de son retour bientôt. Luc 12, verset 32. Jésus-Christ dit, « Ne crains pas, petit troupeau, parlant de nous et parlant à nous, l'Église, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le Christ ici fait référence au royaume de Dieu qui sera établi sur la terre. L'établissement de ce gouvernement va commencer avec le retour du Christ. Allons à Apocalypse 20, maintenant, verset 4. Nous étions dans Apocalypse 20, mais nous avons arrêté la lecture au verset 3. Apocalypse 20, verset 4, maintenant. Qu'est-ce que le Christ voulait dire, en plus, lorsqu'il a dit que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume? Voyez ici, verset 4. « Et je vis des trônes. » C'est ce que Jean a vu dans une vision. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du sermon. Le jour des expiations parle de jugement aussi. Et nous sommes jugés maintenant. Nous sommes sous l'examen de Dieu. Il nous évalue. Nous savons ce qui est vrai, ce qui est faux. Nous savons ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous connaissons le sabbat, que nous ne devons pas travailler ce jour-là. Nous savons que nous devons développer les fruits de l'esprit en nous, que nous devons pardonner aux autres, être patients, manifester plus d'amour envers les autres. Nous sommes évalués sur ces points-là. Apocalypse 20, verset 4, ces gens-là n'ont pas adoré la bête ni son image. Ils n'ont pas reçu sa marque ni sur leur front ni sur leurs mains. Ils ont été jugés comme acceptables aux yeux de Dieu. Ils ont réussi le test. Et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Voilà, ici, il parle de la première résurrection. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Ceux qui sont appelés par Dieu maintenant, qui vivent selon la justice de Dieu, qui s'efforcent de vaincre ceux qui sont jugés dignes de recevoir la vie éternelle. Il dit, heureux et saints, ceux-là, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Nous sommes évalués ou jugés maintenant. Et nous voulons y arriver, arriver au royaume de Dieu. Faire partie de cette première résurrection. Ça nous amène au dernier jour saint, qu'on appelle le dernier grand jour. Allons à Jean, le chapitre 7. Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 37. J'ai pensé que c'était très important qu'on fasse une revue rapide des fêtes de Dieu comme ça, pour nous en montrer l'importance. Et le jour des expiations est un peu comme au milieu des fêtes. Pour comprendre le jour des expiations mieux, c'est important que nous revoyions le sens des autres fêtes. Jean 7 et le verset 37. Le dernier jour... Le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Voici Jésus-Christ, le soir, au début du dernier grand jour. Il y a eu certaines confusions concernant ceci, mais rappelez-vous que les jours, selon Dieu, commencent au coucher du soleil. Ici, il est clairement question du dernier grand jour, mais le verset 37, c'est le début du dernier grand jour, soit dans la soirée. Et lorsqu'on regarde Jean chapitre 8, versets 1 et 2, on voit que c'est le lendemain matin, ce qui est décrit là. C'est la même journée. Si quelqu'un a soif, donc qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné. Le Saint-Esprit a été rendu disponible à la Pentecôte. Maintenant, nous pouvons avoir le Saint-Esprit en nous, ceux qui sont baptisés, qui se sont repentis, qui ont reçu l'imposition des mains. Alors ici, le Christ a émis ses commentaires lors du dernier grand jour. Retournons à Apocalypse 20. À Apocalypse 20, continuons l'histoire. Allons au verset 11. Ici, nous avons la description du dernier grand jour, la troisième époque de jugement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Ils avaient été ressuscités et ils seront jugés selon les Écritures, selon leur façon de vivre, après avoir été enseignés ces Écritures-là. Ils auront accès à la vérité et à l'Esprit de Dieu. Ce sera la troisième époque de jugement. Dieu a un plan qui concerne tous les êtres humains à n'avoir jamais vécu sur la face de la terre. C'est un plan extraordinaire, un plan de salut merveilleux. C'est une vérité précieuse que nous comprenons. Dieu nous les a révélés. Ces jours saints nous révèlent que Dieu a voulu que le Christ soit le sacrifice, l'agneau parfait pour payer l'amende de nos fautes, qu'on puisse être appelé ensuite, qu'on puisse éliminer le péché de nos vies, qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit et qu'on puisse espérer le retour de Christ qui est tout proche maintenant et ensuite la délivrance de ce monde par rapport au petit Dieu qui gouverne et ensuite l'établissement du millénium et après le retour à la vie de tous ceux qui ont existé et qui auront leur chance de salut. Nous apprenons à travers les fêtes que nous célébrons le magnifique plan de Dieu. Allons à Lévitique 16. Retournons à Lévitique 16. Voyons le jour des expiations plus en détail. Il y a quelques leçons pour nous ici. Lévitique 16 et le verset 29. Lévitique 16 et le verset 29. Donc, verset 29. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Trois versets puissants. On voit donc trois choses. On doit d'abord jeûner en ce jour, le jour des expiations. C'est l'instruction précise que Dieu nous donne. Bien sûr, quelqu'un qui a des conditions de santé sérieuses et dangereuses, il faut d'abord consulter son médecin pour être certain qu'on est capable de procéder à un jeûne de 24 heures. Mais si vous êtes capable de jeûner, même si vous avez un mal de tête ou un bouleversement de l'estomac, il faut jeûner le jour des expiations. Comme je dis, si quelqu'un a une maladie grave et qu'il ne peut pas le faire, ou un état de santé qui ne le permet pas, ce n'est pas la même chose. Il faut vérifier avec le médecin ou avec son ministre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Vu qu'on ne prépare pas de nourriture, on a plus de temps. On peut en consacrer davantage à étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas un jour simplement pour s'étendre sur le divan et se sentir misérable, absolument pas. Le jour des expiations, c'est un jour pour consacrer davantage de temps à Dieu, à réfléchir sur le sens de cette fête, à réfléchir sur l'examen de soi pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on apprend encore? On voit que c'est un repos solennel, c'est une loi perpétuelle. Le mot hébreu ici, c'est olam, O-L-A-M. Ça veut dire pour un temps sans fin. À jamais. Il n'y aura pas de fin. La fête des expiations n'a pas été abolie. Nous devons l'observer aujourd'hui, comme c'était observé par l'ancienne nation d'Israël. Donc, c'est un jour saint, on ne doit pas travailler et nous devons jeûner. On peut étudier davantage et prier davantage et nous devons l'observer aujourd'hui. Allez un petit peu avant, au verset 21. Vous vous rappelez, il y avait les deux boucs. Ici, au verset 21, nous voyons que le bouc représentant Satan est éliminé. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et cela représentait ce qui va se produire très bientôt, quand Satan sera lié par cet ange puissant et qu'il sera enfermé dans l'abîme pour ne plus être capable de nuire. Voyez-vous, il faut que les péchés soient expiés. Il faut qu'il y ait un prix de payer. Rappelez-vous, il y a deux boucs. Nous avons nos responsabilités dans toutes les fautes que nous avons faites. Mais le Christ est mort pour nous et nous pouvons être lavés de nos fautes. Nous voyons qu'il y a un bouc qui représente le Christ. Et ce bouc était mis à mort. Mais voici le second bouc, lui, n'était pas mis à mort. Il représente Satan, le menteur, le séducteur, celui qui a initié le mal dans le monde et qui le répand, qui empoisonne l'humanité. Ici, les fautes sont mises sur sa tête, comme on voit dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Satan a vu ces choses-là être répétées année après année dans la nation d'Israël. Et c'est ce qui va lui arriver à lui. L'abîme lui est réservé. C'est le sort qui l'attend. Il a été témoin de ça. Il sera dans la désolation totale. Il ne pourra plus avoir contact avec les êtres humains. Il y a beaucoup de significations autour du jour des expiations. Rappelez-vous, Dieu avait donné des directives très précises à Aaron. Et je veux y revenir brièvement parce qu'il y a des choses pour nous à apprendre là-dedans, afin que nous soyons très attentifs dans notre façon d'adorer Dieu, dans notre façon de lui obéir, dans notre façon de comprendre les jours saints et de les vivre. Lévitique 16, verset 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Alors voyez-vous, ici, dès le début des instructions que Dieu donne à Moïse, instruction qui devait être passée à Aaron, Dieu veut que nous soyons attentifs aux détails. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous. On ne fait pas le jour des expiations quand on a le goût de le faire. Comme le verset 29 nous dit, nous devons le célébrer le septième mois, le dixième jour. Et nous devons jeûner comme Dieu nous l'a mentionné. Bien sûr, on doit jeûner en d'autres temps. Dr. Meredith a écrit beaucoup là-dessus. Nous devons jeûner en d'autres périodes de l'année, bien sûr. Mais au jour des expiations, c'est un commandement de le faire. Le septième mois, le dixième jour. Aaron ne pouvait pas entrer dans le Saint des Saints n'importe quand. Tout devait se faire dans l'ordre, selon les directives de Dieu. Verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Avant même qu'il aille vers le bouc, Aaron devait prendre un taureau et un bélier pour représenter le paiement de ses fautes et des fautes de sa famille. Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin. Et il portera sur son corps des caleçons de lin et se ceindra d'une ceinture de lin. Dieu veut qu'on porte attention aux détails. Pourquoi est-ce qu'on s'habille comme on s'habille pour venir devant Dieu le jour de sabbat et les jours de fête? Est-ce que c'est pour impressionner les autres? Non, absolument pas. C'est pour honorer notre Dieu. Nous venons en habit, en veston cravate. Les églises du monde disent tout simplement « Venez comme vous êtes ». Venez en bermuda ou en short, en jean ou en chandail. Non, Dieu veut que nous soyons respectueux envers lui. Il veut que nous l'honorions, que nous l'adorions de bonne façon. Voyez les instructions que Dieu avait données à Aaron. Dieu n'a pas dit « Viens comme tu es avec les vêtements que tu as sur le dos ». Alors, on ne se présente pas devant Dieu avec des vêtements de sport ou des choses de même, non. Dieu a dit à Aaron de se vêtir de vêtements précis. Nous sommes, écoutez, en entraînement pour devenir des sacrificateurs, des enseignants dans le monde à venir, des dirigeants. Alors, nous devons être attentifs à notre façon d'adorer Dieu. C'est à nous de nous préparer de bonne façon maintenant. On doit prier Dieu avant de vivre les jours saints. Dieu, aide-moi à bien célébrer ces jours pour que je t'honore, que je te révère. Je sais que je suis faible, mais aide-moi. Ton fils est la Pâque pour moi. C'est lui, le bouc, qui a été immolé, pour ainsi dire, pour nous. Aide-nous à célébrer tes fêtes de bonne façon. Regardez le verset 7. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. C'est le reste de l'histoire. Verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Nous avons besoin du jour des expiations. J'ai péché, vous avez péché. En quoi que ce soit quelque chose de tout petit, avoir une mauvaise attitude ou quelqu'un a fait un vol, j'espère que vous n'avez pas fait ça à personne, quelqu'un a volé une voiture. Le péché étant le péché, nous manquons notre coup de différentes façons et nous avons besoin du jour des expiations. C'est important, notre façon de l'observer et quand nous l'observons. Et c'est important que nous nous rappelions la signification de ce jour. C'est important que nous jeûnions aujourd'hui. Allons à Ésaïe, chapitre 58. Ésaïe, chapitre 58. Lorsque nous jeûnons, frères et sœurs, nous ne jeûnons pas simplement pour avoir l'impression d'être misérables et nous rappeler que nous sommes des êtres humains faibles. Bien sûr, ça nous rappelle que nous sommes des êtres humains faibles et limités. Mais ce n'est pas la raison principale. J'aimerais vous montrer quelque chose d'important ici. J'aimerais vous montrer un des buts importants du jeûne. Ésaïe 58, c'est un passage superbe et c'est un passage prophétique. Un passage qui va nous donner davantage de compréhension sur la fête des expiations. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est Dieu qui parle. Détache les chaînes de la méchanceté. Satan, le diable, a lié ce monde dans la méchanceté. Il a séduit le monde entier. C'est un meurtrier, c'est un menteur, c'est un séducteur, et le monde est dans une situation désastreuse, en large partie à cause de Satan. Regardez ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe dans de grandes parties de l'Afrique. Regardez ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est abominable ce qu'on voit. Meurtre, guerre, fausse religion, avortement, drogue, tout ce que vous voulez. Abomination. Et Satan est largement responsable de cela. Comme c'est décrit parce qu'on a fait au bouc représentant Azazel. Nous devons jeûner le jour des expiations. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Il dit, détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude ou le joug du péché. Quand ce joug-là sera enlevé complètement? Lorsque Satan, le diable, sera éliminé, enfermé dans l'abîme. Lorsque cet ange puissant descendra et liera Satan pour 1000 ans. Alors, en jeûnant aujourd'hui, nous devons prier Dieu que ça se réalise. Dans la prière modèle, qu'est-ce qu'on demande? Que ton règne vienne. Quand nous jeûnons aujourd'hui, nous jeûnons pour que son royaume vienne. Et pour que, bien sûr, Satan soit éliminé, afin que son royaume puisse être établi. Je dois demander à Dieu de m'aider à éliminer la méchanceté qu'il y a encore en moi. Verset Verset 7, partage ton pain avec celui qui a faim. Comment ça, partager le pain avec celui qui a faim? Nous jeûnons aujourd'hui. Comment est-ce que je peux partager mon pain alors que je jeûne? Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce que Dieu veut dire ici par ces paroles d'Ésaïe? Qui est le pain de vie? C'est Jésus-Christ. Il est le pain de vie duquel nous devons nous nourrir. Le Christ a dit que des eaux vives sortiraient de ceux qui ont le Christ en eux. Alors regardez ici, partage ton pain, partage la vérité, partage l'Évangile, le plan de salut avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Est-ce que nous sommes généreux? Pas seulement avec nos dîmes, mais avec notre temps. Est-ce que nous sommes généreux pas seulement avec nos offrandes, mais par nos prières? Aujourd'hui, est-ce que nous prions pour les millions de gens à travers le monde qui sont dans la misère effroyable et même les milliards de personnes qui sont dans la souffrance? Est-ce que nous supplions Dieu qu'il envoie le Christ au plus tôt pour que Satan soit lié? Dieu, nous comprenons, cher Dieu, nous comprenons que le Christ a payé l'amende pour nos péchés, mais nous voulons que le monde soit en paix. Nous voulons que le monde vive dans la justice et que la paix soit sur toute la terre, comme on a vu dans Ésaïe au début du sermon, qu'il ne se fasse plus ni dommage ni tort sur toute la terre. Verset 8. Alors, quand je lis le verset 8, je pense à la première résurrection. Et ça m'encourage tellement. Je pense aux prémices qui seront ressuscités à ce moment-là au retour de Christ. Et ces premiers fruits vont être sous la directive du Christ et vont briller, vont apporter la réalisation de l'espoir de l'humanité. C'est qui ces gens-là? C'est ceux qui auront jeûné, qui auront voulu partager la vérité avec ceux qui ont besoin, qui auront voulu que le monde soit changé par la venue du Christ, qui auront supplié Dieu que le retour de Christ fasse et qui auront soutenu son œuvre, qui auront prié pour son œuvre. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Voici une prophétie. C'est une prophétie concernant la deuxième venue du Christ et concernant les prémices qui auront gardé le sabbat de Dieu, qui auront observé avec joie les fêtes de Dieu, qui auront jeûné le jour des expiations, qui supplient Dieu de renvoyer le Christ sur la terre pour établir son royaume, qui apprécient la vérité et qui veulent que le monde la connaisse. C'est une prophétie, j'espère, qui vous concerne, vous et moi, pour votre avenir. Revenir sur la terre avec le Christ et établir le royaume de Dieu sur la terre pour le bonheur de l'humanité. À ce moment-là, Satan aura été éliminé pour 1000 ans. Il ne sera plus capable de séduire les nations et nous ferons partie de l'équipe du Christ qui va guérir la terre. Frères et sœurs, soyons vigilants, restons vigilants. Rappelons-nous que le jour des expiations a beaucoup, beaucoup de signification. Ça parle de jugement, ça parle de miséricorde, ça parle de l'amour de Dieu. Ça décrit Satan qui sera éliminé. Ne faisons pas de compromis. Ne faisons pas les choses à notre façon. Observons ce jour des expiations de façon sainte. Renouvelons notre engagement en jeûnant aujourd'hui, notre engagement à le servir jusqu'au bout. Prions pour que les fardeaux de l'humanité soient enlevés. N'oublions pas, frères et sœurs, que le jour des expiations, comme chacun des jours de fête, nous montre le plan de salut de Dieu. J'aimerais terminer avec Hébreux, en concluant, Hébreux chapitre 2. Comme nous avons vu, l'Église est jugée maintenant. Nous avons vu que le millénium s'en vient et que ce sera la deuxième époque de jugement pour ceux qui seront encore vivants à ce moment-là, et qu'après le 1000 ans, il y aura la résurrection de tous ceux qui ont vécu dans l'histoire, et ce sera la troisième époque de jugement, ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc. Et j'aimerais terminer sur une note très positive et inspirante, Hébreux 2, et nous allons lire à partir du verset 5. Je veux conclure avec ce passage ici. En effet, et ça met en contexte pourquoi nous humilions nos âmes aujourd'hui, pourquoi nous aimons les fêtes de Dieu, pourquoi nous aimons ses commandements. C'est parce que Dieu a un grand plan, que nous faisons partie de ce plan, et la victoire nous attend. Hébreux 2 et le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te rappelles de lui? Vous savez, si on ne boit pas et on ne mange pas pendant quelques jours, nous allons mourir. Qu'est-ce que l'homme? Nous sommes rien. Verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore que toutes choses nous seront soumises, mais nous voyons Jésus qui a été pour un peu de temps abaissé au-dessous des anges, et il est maintenant couronné de gloire et d'honneur. Il est mort pour nous, et nous sommes les enfants de Dieu, les co-héritiers de Christ. Dieu veut que nous soyons sous le Christ en charge de toutes choses. Nous pouvons être là, et nous serons là si nous comprenons la signification du jour des expiations et des autres fêtes de Dieu.